Radio Barque 34e, notre troisième partie, qui, selon notre coutume, est consacrée essentiellement à écouter notre invité, dont je rappelle aujourd'hui qu'il est Yves Bassier, maire de Salles-les-Daudes, mais est surtout aujourd'hui, à ce titre, président de la Fédération des chasseurs de l'Aude. Yves Bassier, rebonjour, puisqu'on bonjour. Vous a déjà entendu, vous avez déjà utilisé le micro, ça prouve
et
que vous savez...
Ils m'ont écouté avec grande attention.
Bonjour Yves Bassier.
Voilà, alors la Fédération des chasseurs de l'Aude, c'est quelque chose qui, ça peut surprendre, mais c'est quelque chose de très important, peut-être parce que nous sommes un département rural, mais en tout cas, c'est un fait incontestable. Quelques chiffres déjà pour commencer.
Ben oui, c'est lié effectivement à la ruralité, c'est 13 500 adhérents à ce jour, rien que dans la partie chasse, et aujourd'hui on doit être à 3 ou 4 000 adhérents dans la partie nature, parce que bon, je tiens à préciser que c'est la Fédération départementale des chasseurs et de la nature. Nous sommes une association environnementale agréée en tant que telle, et je pense qu'on va y revenir dans l'entretien.
Oui. Alors, en préparant cette émission, votre collaboratrice m'a fait passer une brochure que j'ai bien entendu parcourue. Je suis tombé sur une expression qui m'a surpris et je me suis dit, il faut que je demande à M. Bassier ce que ça veut dire. La chasse sur autrui.
Alors la chasse sur autrui...
C'est joli, ça, effectivement.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est chasser chez quelqu'un d'autre.
Ah, c'est ça.
Voilà, sur autrui, c'est chez quelqu'un d'autre.
Alors, c'est marrant, ça.
Généralement,
c'est la politique.
Quand on dit chasse sur autrui, ça veut dire qu'on n'a pas l'autorisation de chasser.
Ah.
Voilà, tout simplement.
Ah bon, ça veut
Parce
dire...
Parce qu'il y a des secteurs donc, qui sont soit des sociétés, soit des ACA, que l'on appelle Association de chasse communale agréée. Et vous ne pouvez chasser que dans le secteur où vous avez votre carte d'adhérent. Donc si vous allez chasser chez quelqu'un d'autre, c'est chez autrui.
Ah, donc c'est illégal.
Vous verbalisez.
C'est illégal.
Voilà, c'est une expression.
Vous deveniez presque un braconnier dans ce cas-là.
Mais malheureusement, il y en a. Il y a des gens sérieux partout et il y a des gens pas sérieux et il y a également dans la chasse.
Oui. Donc on a bien compris que ces 13 000 et quelques adhérents en font la plus grande association du département.
Tout à fait, oui. C'est pour ça que dans votre présentation... Vous dites que c'est important, oui, c'est important sur le plan humain, mais c'est aussi important sur le plan économique, parce que la chasse, c'est son fidèle compagnon, c'est son chien, ses chiens, c'est les déplacements, c'est les vétérinaires, c'est les croquettes pour les chiens, c'est les fusils, les cartouches, etc. Donc ça veut dire, à côté de ça, c'est une puissance économique sur le département.
Oui, insoupçonné pour beaucoup de gens, sans doute.
Tout à fait.
Oui, justement, en fait, ce cas de dommage, en tout cas, je crois que c'est dans l'esprit de beaucoup d'auditeurs, c'est que cette fédération de chasse est une image de ruralité profonde, de chasseurs qui sont, bon, qui se foutent de tous, mais qui ne sont préoccupés que par descendre du gibier. Bref, une image ringarde, passéiste, profondément, pour ne pas dire réactionnaire, alors que bon, c'est une structure
alors
qui pourrait effectivement jouer un autre rôle.
Justement, profitons de la présence d'Yves Bastille à ce micro pour déringardiser, si vous permettez l'expression.
Que depuis que je suis président, là, depuis quelques années, on a essayé de faire évoluer, apparemment pas assez, cet état d'esprit dans la population, parce que on a ouvert justement la partie environnementale de la fédération. Aujourd'hui, il faut savoir que sur une trentaine de salariés qui sont dans la fédération de chasse, plus de la moitié sont au service de la nature et des projets liés à la nature. Il faut savoir qu'on a créé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans en arrière, avec le soutien de la région et du département, la mise en place de MC2 Nature, que l'on appelle, donc une association, en collaboration avec la Chambre d'agriculture, pas en collaboration, en association avec la Chambre d'agriculture et le Parc naturel régional. Et on déposera dans quelques mois le label CPIE, donc Centre permanent d'initiation à l'environnement, sur l'ensemble du département. Il existait à l'époque localement. Il y en avait un autre dans les Corbières. Là, on a ce projet sur l'ensemble du département. On a l'agrément au niveau de l'éducation nationale pour faire justement de la formation au niveau de la faune et de la flore sur les scolaires. Et on a régulièrement une cinquantaine ou une centaine d'interventions dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et on n'y va pas en tant que chasseur, on y va en tant qu'animateur
de la nature.
Voilà. Oui. Et on a un centre de formation, on organise des stages de découverte de la nature. Ça peut aller du brame dans la Haute-Vallée, à la découverte, il n'y a pas que la LPO qui fait du travail au niveau de la découverte. Et puis la différence avec d'autres associations environnementales, c'est que le chasseur, en dehors de la période de chasse, puisque ça se passe toute l'année, entretient l'espace. Et nous avons des groupements d'intérêts cynégétiques que nous appelons, qui sont équipés de tracteurs, des gyrobrailleurs, etc., et qui entretiennent une partie de cette nature. Et même nous allons plus loin, puisque dernièrement j'étais avec une responsable de la direction départementale du travail, mais dans un portant un peu plus compliqué que ça. Nous voulons mettre en place des chantiers d'insertion sur l'ensemble du département. Voilà, ça c'est la partie environnementale.
Et après, alors, si vous me permettez une parenthèse. C'est intéressant ce que vous dites à plus d'un titre, parce que dans l'imagerie d'Épinal classique, chasseurs et écologistes sont des ennemis forcenés.
Disons qu'on peut être opposé avec certains intégristes. Il y a des intégristes chasseurs, des intégristes écologistes, il y a des intégristes politiques.
Mais c'est ceux-là qui sont ennemis pour vous.
Ce sont les plus dangereux de partout. Mmh. Moi, effectivement, depuis des années, j'essaye de respecter les associations départementales dans le livre qu'on a sorti. Vous avez des partenaires comme les randonneurs, l'association équestre, etc., etc., avec qui nous balisons la nature ensemble. On la partage. Voilà. Mmh. Elle appartient pas aux chasseurs. On partage la nature et puis on chasse la moitié du temps de l'année, le reste de l'année on n'y est pas. Et puis quand on chasse, ça se passe sur tout le territoire, il reste quand même du territoire à occuper pour d'autres personnes. Donc on essaie effectivement de mettre en place une chasse, j'allais dire, plus intelligente, plus respectable,
voilà,
et respectée
plus,
pour.
Voilà, plus consensuelle et presque œcuménique en quelque sorte.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait.
Alors revenons quand même à la chasse elle-même, donc on chasse des animaux. Je lisais dans la brochure que vous m'avez communiquée 15 000 sangliers, 2 500 chevreuils et plus de 300 cerfs sont prélevés chaque année. Alors prélevés, dans votre langage, ça veut dire abattus, chassés.
Oui, bien sûr.
Voilà. Oui. Et ces quotas-là, ça correspond, enfin, ça tombe pas du ciel.
Alors, on appelle ça des plans de chasse, hein, au niveau départemental. Alors la problématique aujourd'hui, elle n'est pas sur le chevreuil. On aurait pu rajouter les mouflons, isards, etc.
Il y en a quelques-uns sur les contreforts des Pyrénées.
Voilà. Donc on a un quota que l'on fait chaque année, mais la problématique étant le sanglier. Donc le sanglier, avec les services de l'État, puisqu'on a, une mission de service public sur les dégâts, puisque le chasseur est obligé d'indemniser l'agriculteur sur les dégâts, c'est une loi, on le regrette, mais on est obligé de l'appliquer. Et donc, ces 15 000 sangliers, ce sont des quotas que l'on fixe par secteur et qu'on essaye d'atteindre et qu'on atteint depuis quelques années sans problème. Parce que, bon, j'allais dire, heureusement et malheureusement, nous avons trop de sangliers sur le département.
Oui, donc ces chiffres-là correspondent à un équilibre qui vous semble souhaitable.
Voilà. C'est un équilibre avec le monde agricole, puisqu'on travaille ensemble. Depuis qu'il y a, le nouveau président de la Chambre, on travaille en étroite collaboration. On se voit régulièrement et on met les quotas secteur par secteur et on fait surtout de la protection aussi avec les agriculteurs, parce qu'il vaut mieux faire de la protection pour, notamment en posant des clôtures électriques ou faisant de l'agrainage dissuasif plutôt que indemniser l'agriculteur ou le viticulteur. C'est quand même le fruit de son travail, de le voir dégradé par le sanglier, c'est jamais agréable.
Là, vous avez un rôle de conseiller en quelque sorte. Par exemple, installer des clôtures performantes.
On essaye de le faire ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des commissions par secteur, et ce sont les chasseurs et les agriculteurs. Dans certains secteurs, ce n'est que le chasseur qui va poser les clôtures pour l'agriculteur.
Oui, Yves Bastier, il y a certains pays comme le Canada, enfin, je ne parle pas je ne parle pas des pays africains où on chasse le gros gibier, mais il y a certains pays qui font de la chasse, hein, et des territoires de chasse, des arguments de leur politique touristique.
Tout à fait.
Et je trouve que dans cette région où il y a pas mal, je veux dire même beaucoup d'espaces qui pourraient être dédiés, en fait, à cette valorisation de ces 10 espaces à travers effectivement une politique de chasse un peu plus pensée, en fait, et voulue en termes touristiques, qui pourraient l'être et qui ne le sont pas.
Bon, on a l'impression que c'est plutôt une chasse un peu populaire,
populaire
dans le monde
aujourd'hui,
sans être péjoratif d'ailleurs.
Alors, il y a les deux, c'est-à-dire qu'on souhaite maintenir le côté démocratique de la chasse hein, à travers ces fameuses ZACA. On se refuse de tomber dans les chasses type de l'Est où pour chasser il faut avoir de l'argent.
Voilà, chasse
donc,
pour riches.
Donc nous c'est la chasse démocratique, ça on le maintient. Par contre, chasse-tourisme existe en Lode. On l'a monté il y a 2-3 ans en arrière. Il faut savoir que l'année dernière, on a accueilli sur le département plus de 1000 étrangers qui sont venus essentiellement du nord de la France, des anglo-saxons, d'Angleterre, Belgique, Norvège, etc., etc., sont venus chez nous. Et on propose un produit, c'est-à-dire qu'ils viennent passer 3 jours, 5 jours chez nous, avec un jour de chasse. Et on habille le reste.
Oui, donc il y a bien un produit touristique
voilà,
qui existe.
Et on les amène chez les agriculteurs qui ont des gîtes. Ils mangent au restaurant ou chez les agriculteurs du coin. Et tout ça a représenté des milliers de nuitées l'année dernière et des milliers de repas l'année dernière. La problématique que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on manquerait, j'allais dire, de gibier à proposer par rapport à la demande. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour la saison 2015-2016, l'ensemble des bagues que l'on appelle, parce qu'on ne peut pas tuer le gibier comme ça n'importe comment, l'ensemble des bagues disponibles pour chasse-tourisme sont déjà pourvues. Donc aujourd'hui, on amène les étrangers sur la chasse donc au sanglier, et ça amène en plus quelques euros supplémentaires aux sociétés qui ne roulent pas sur l'or à ce jour. Quoi.
Un dernier point, Yves Bastier. Alors là, je me permets de revenir quand même au maire de Salelles. Vous avez fait, vous êtes battu depuis plusieurs mois, plusieurs années même, pour le maintien de vos platanes. Ah oui. Vous avez mené plusieurs actions, dont certaines ont été médiatisées. On a l'impression que c'est un combat, non pas perdu d'avance, parce que vous êtes tenace et vous vous êtes entouré. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On a l'impression que ça piétine malgré tout.
Ben, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la France est un pays compliqué que... Et on le dit souvent, pourquoi faire simple comme pour compliquer la situation. On a malheureusement une administration française, là c'est pareil, Michel le disait tout à l'heure, il y a les beaux discours, et puis moi ce qui m'intéresse c'est les actes. Aujourd'hui, ben, c'est tout simplement des Parisiens, des ronds de cuir là-haut, qui n'en ont rien à foutre de notre canal du Midi, qui n'en ont rien à foutre de nos platanes, et qui aujourd'hui laissent un peu traîner la situation. On a eu le responsable du CETEV encore au téléphone il y a quelques jours, puisqu'on s'appelle régulièrement, alors qu'on devait commencer les essais, vous le savez, au printemps, en sève montante, ben on est venu lui demander encore 2 compléments de dossier. Enfin bon,
oui,
en parlant français, on l'embête, mais j'aurais aimé dire plus.
Pire
plus
que
fort.
Ça, oui, bien pire
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dirait qu'on se fout de nous. C'est-à-dire que, imaginez ma commune sans platane, par exemple, ou imaginez comme aujourd'hui le Somail, je ne sais pas si vous êtes pas. Le Somail, ils ont coupé les 3/4 des arbres, demain, il n'y en aura plus. On nous tue le peu d'économie touristique liée au canal de ce jour. Donc effectivement, on continuera à se battre. Et là, on se bat pour que les essais, bon, on les a manqués au printemps, et bien, on va se battre pour qu'ils se fassent en septembre-octobre.
Pour qu'ils se fassent. Voilà, l'idée étant de trouver un vaccin qui permettrait d'éviter cet abattage massif.
Voilà, mais surtout qu'il faut que le CETEV est un cabinet reconnu mondialement. Il ne demande rien. Il faut savoir qu'il ne demande rien
en
financièrement.
Plus,
il ne demande qu'une autorisation. Il serait grand temps maintenant qu'on siffle la fin du match et qu'on passe
partie,
aux choses sérieuses. Quoi.
Voilà. Mais écoutez, merci Yves Bastier d'avoir été notre invité aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie à tous les deux.
En tant que président de la Fédération des chasseurs de l'Aude, mais évidemment, on ne pouvait pas éviter votre fonction ancienne de maire de Salelles et surtout de ce combat que l'on vient d'évoquer. Le prochain invité sera également un maire, celui de Fleury, Guy Sier. Et après quoi, ben nous recevrons d'autres maires plus tard. Il est prévu sur la liste Madame Théronchet de Roquefort. Et puis alors, je l'avais déjà indiqué, Monsieur Alric, qui lui est quelqu'un qui se bat pour en quelque sorte, défendre sa légitimité dans un groupement qui, enfin, dans une association qui s'appelle Anticorps.
Oui.
On y reviendra dans de prochaines éditions. Merci à vous et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.